Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis, bonjour à nos auditrices et auditeurs.
Bonjour Nicole, bonjour Roger et bonjour à toutes et à tous.
Voilà,
content de vous retrouver.
Voilà, Et nouveau numéro de 13 Passions, avec que c'est tous les vendredis de 18h à 19h. Aujourd'hui, deux invités. Nous allons avoir dans un premier temps Thomas Sartorel, responsable de la communication au Toulouse Olympique. Et ensuite, dans la foulée, nous aurons Laurent Frécinous, le nouvel entraîneur du 13 de France. Et puis, vous aurez quelques actualités, si on a le temps, évidemment, mais je pense qu'on a le temps, quelques actualités internationales du Olympique 13. Et puis, on vous proposera le programme de ce week-end prévu. Nicole, avec nous en ligne, notre ami Thomas Sartorel.
Il arrive, il est dans les tuyaux.
En attendant, Roger, si tu veux bien,
oui.
Ça y est,
il est arrivé.
Juste une première information avant de retrouver Thomas. Le match des champions de France élite qui devait se dérouler dimanche à Carcassonne, match de rattrapage déjà, qui était Carcassonne 13 contre le Racing Club de Saint-Gaudens, les ours des Comminges, eh bien, est reporté pour la deuxième fois à cause du Covid. Donc le match n'aura pas lieu. Donc c'est pas grave, si vous souhaitez le suivre sur Radio Marseillette, restez sur Radio Marseillette, vous pourrez suivre à la place l'autre match au sommet, le 13 de Limoges qui recevra Villeneuve-sur-Lot. Voilà pour la première info que nous répéterons tout à l'heure.
Merci Denis. Alors nous avons notre ami Thomas Sartorel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour
alors,
Thomas.
Alors Thomas Sartorel, demain, le premier match du Théo Olympique, le nouveau Théo Olympique, face à Cédron Catalan, et je pense que c'est la première fois, depuis qu'il y a eu des matchs amicaux entre les deux clubs, que là, ça va revêtir un parfum spécial.
Ben, un petit peu, ouais, puisque ça fait ça va faire plus d'un an qu'on n'a pas joué un match. Donc ouais, je pense que c'est la première fois que les, hormis pour les grosses blessures, c'est la première fois que les joueurs ont pas connu une pause aussi longue. Donc oui, en effet, ce sera pas un match comme les autres, c'est sûr.
Et puis cette année, le Théo Olympique une équipe pratiquement de niveau Super League.
Je pense qu'on ça fait plusieurs c'est notre objectif depuis plusieurs années. On a vu que pour monter en Super League, il fallait avoir même en Championship un effectif de Super League. Quand on a compris ça, le but a été d'avoir cet objectif le plus vite possible, cet effectif, pardon. Je pense qu'on l'avait l'année dernière déjà. Tout le monde sait ce qui s'est passé et qu'on n'a pas été en capacité de le montrer. Le staff a cette ambition à chaque fois qu'un joueur chaque fois qu'un joueur quitte l'effectif, c'est de le remplacer par un joueur encore plus fort. Il y a des joueurs qui sont partis et d'autres joueurs qui sont arrivés. Le but c'est qu'ils soient plus forts que ceux qui sont partis. Donc ouais, je pense que aujourd'hui on a en tout cas le meilleur effectif qu'on ait jamais eu au Toulouse Olympique. Et de là à dire si c'est un effectif de Super League, je pense que oui, parce que on a la grande majorité des joueurs qui ont joué au moins en Super League, voire en NRL. Donc, voilà.
Et puis la cerise sur le gâteau, Thomas Sartorel, c'est l'arrivée, pas de n'importe qui, de monsieur Rémi Cassi.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que Rémi, c'était une belle opportunité pour le club. Rémi était libre de tout contrat et il avait encore l'envie et l'énergie, la motivation de continuer à jouer au plus haut niveau. Donc voilà, il a échangé avec Sylvain Oulès, avec le président Sarrazin, et notre projet semble l'avoir séduit. Donc on est très heureux de ça. Et puis bon, je pense que ça, pour l'avoir vu au sein du groupe, voilà, c'est il est comme un poisson dans l'eau, quoi. Il encadre tous les jeunes, il est toujours de bons conseils, il est vraiment très à l'aise, et on dirait pas que ça fait à peine un mois qui s'entraîne avec l'équipe, quoi. Donc puis bon, après il y a son aura auprès de tous les joueurs. Voilà, non, c'est quelqu'un qui va nous apporter beaucoup cette saison, et c'est peut-être ça aussi qui manquait. Un papa capable de guider l'équipe et de pouvoir mener l'équipe, surtout notamment dans les matchs les plus compliqués mentalement. Alors encore une fois, peut-être qu'on avait ce joueur l'année dernière, mais bon, encore une fois, on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu le savoir. Donc, cette année, ce sera la bonne, il n'y a pas d'autre choix.
Denis.
Oui, alors pour revenir à ce match de demain, c'est un match, alors on ne dit plus les matchs amicaux, hein, ce sont des matchs de préparation. Alors l'an dernier, vous aviez, dans ce match face au Dragon Catalan, offert une belle résistance, hein, nous y étions, nous l'avions commenté, comme celui de demain d'ailleurs. Vous les aviez poussés un peu dans les retranchements à cette équipe des Dragons. Alors, à nouveau, bon, là, c'est le deuxième match pour les Dragons, puisqu'ils ont joué la semaine dernière contre le 13 de Président. Ça a été un match de rodage, mais là, vous, ça va être votre premier match, comme vous le dites, depuis un an. Vous êtes quand même à plus d'un mois de l'ouverture de la saison. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un déséquilibre, parce que vous risquez au moins pendant une mi-temps, on va voir quels seront les choix de McNamara, mais est-ce que vous risquez d'avoir peut-être dans une mi-temps pratiquement l'équipe des Dragons à une paire de joueurs prêts qui risquent de débuter la saison? Donc pour vous, ça risque d'être un peu compliqué.
Ouais, après, oui, mais bon, enfin, voilà, c'est à ça que servent les matchs de ce type, hein, les matchs de préparation. C'est certain que, voilà, les Dragons restent les Dragons, ils restent une équipe de Super League, avec l'effectif qu'on connaît, un effectif qui a, lui, continué à jouer l'année dernière, qui a fini sa saison, plus un effectif qui a joué le week-end dernier. Bon, eux, ils ont repris l'entraînement en collectif depuis le début mars. Notre effectif, il s'entraîne depuis le début du mois de décembre. Donc ça fait 3 mois et demi qu'ils s'entraînent. Donc voilà, je pense qu'ils sont sur... nos joueurs ont vraiment la bave aux lèvres, comme on dit. Et ils n'ont hâte que d'une chose, c'est de jouer. Et voilà, après, bon, je pense que enfin, le staff s'attend bien sûr à ce que il n'y ait pas un rythme de fou de notre côté, ce qui est largement compréhensible. Mais voilà, comme l'a dit Sylvain Oulès, l'objectif, c'est surtout le collectif et de bien distinguer que chaque joueur a intégré son le plan de jeu et ce que le staff attendait, quoi. Après voilà.
Alors vous aurez
ce genre de match, c'est à ça que sert ce genre de match, quoi.
Voilà, vous aurez quand même six de vos recrues, hein.
Tout à fait.
Voilà, il vous manquera quand même 5 joueurs, White, Aycock, Adair, Rémi Cassi, et puis la dernière recrue, Guy Armitage. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce joueur qui pour l'instant est à l'essai, hein, vous l'avez pris à l'essai pour un mois, je crois.
Oui, tout à fait, Guy est à l'essai jusqu'à la fin du mois de mars. Écoutez, c'est un très gentil garçon qui parle très 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 bien français. Il est complètement bilingue. Et on va voir ce qu'il peut proposer à l'effectif. Ouais, tout à fait. Il est à l'essai. Je pense qu'il a pareil lui aussi. Ben, il a connu pas mal de déconvenus du fait de la pandémie, parce que il était engagé avec Ottawa pour jouer en 2021, et puis Ottawa a repoussé son entrée dans les compétitions anglaises. Puis après, avec Villefranche de Rouergue en Elite 2, sauf que ben, pareil, l'Elite 2 n'a pas repris cette saison. Donc bon, c'est pareil, je pense qu'il ronge un peu son frein et être à l'essai chez nous, je pense qu'il va vouloir prouver qu'il a le niveau pour évoluer en championship. Et en tout cas, c'est un super gars et il a bien été intégré au groupe, il s'est bien intégré. Et voilà, et je pense qu'il, avec quelques séances d'entraînement de plus dans les jambes, il aurait pu postuler à être sur la feuille de match. Mais bon, en tout cas, voilà, il est arrivé mardi, il a que trois séances d'entraînement, il a fait que trois séances d'entraînement avec l'équipe. C'est beaucoup trop court, et ce serait prendre un risque que de l'aligner contre les Dragons, quoi.
Alors,
Denis,
oui,
Roger. D'abord, une petite information qui concerne Radio Marseillette. Internet, pour le moment, ne fonctionne pas, mais ce n'est pas de notre faute. Vous savez qu'à Paris, je ne sais pas si c'est l'OVA ou l'OVH, ça s'appelle, qui a brûlé, et Radio Marseillette était distribuée par cet organisme. Alors, pour le moment, on peut écouter les postcards, mais Internet, le direct, ne marche pas. On pourra écouter les missions Boscat. Là, ils sont en train de l'arranger. On espère que très rapidement, tout pourra marcher. Mais là, c'est indépendant de notre volonté. Voilà, Denis, tu peux continuer.
Oui, par rapport à vos 6 recrues, bon, vous pourrez nous en dire un mot de chaque recrue étrangère. Hein, mais je voudrais m'arrêter un peu sur Éloi Pélissier, parce que, bon, évidemment, pour Éloi Pélissier aussi, c'est un retour à Brutus, là aussi où il a signé, face à son ancienne équipe, où il a signé de très grands matchs, où il a reçu beaucoup de soutien du public catalan. Pour lui, ça va être un moment, enfin un peu particulier, parce que ce n'est que le début de la saison, mais c'est un moment particulier. Et puis ça va être son premier match sous vos couleurs.
Oui, tout à fait. Il revient à Brutus. Sous le maillot du Théo, ouais, je pense que ça va pas être un match comme les autres, même pour un match amical. Puis bon, c'est à Perpignan, c'est sur ses terres, hein. Enfin, voilà, il est né et grandi dans les Pyrénées-Orientales, donc je pense que ça va être un match un peu particulier pour lui. C'est là où il a, c'est avec les Dragons qu'il a découvert le haut niveau et qu'il a performé au plus haut niveau. Donc ça va être sympa pour lui, ouais, en effet. Ouais.
Oui, et concernant les autres crues qui joueront demain à Brutus, Dixon, Garbut, Polo, Dominique Perrault, c'est très connu, et la très Chaumel, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur chaque une de ces recrues?
Joseph Paolo et Dom Perrault ne sont pas présentés, je pense, parce que quoi, c'est deux champions de Super League en titre. C'est pas rien quand même. Ils nous ont joué assez tardivement, bah, parce qu'ils avaient tout simplement la finale de Super League à jouer avec Saint-Hélène, ce qu'ils ont remporté. Donc voilà, c'est
deux énormes joueurs là que vous avez.
Ça montre le niveau des deux joueurs. Il y a Dom Perrault qui a joué en NRL chez les Warriors notamment. Sefo Paolo, il a joué plus de 150 matchs de NRL Voilà, donc bon, juste ça pose les bases.
C'est le cadre de l'élite.
Ouais, c'est ça. C'est deux gros joueurs à la grosse expérience et pareil, des super mecs qui apportent beaucoup d'énergie et beaucoup de joie au sein du groupe. Vous avez dit Latrell Schunkel, ouais, Latrell qui était à Villeneuve. Qui était à Villeneuve en 2019-2020 sur la saison, qui a malgré l'arrêt de la saison, l'arrêt prématuré, il a terminé quand même meilleur marqueur avec 13 essais en juste 11 matchs, je crois. Mm. Donc voilà, c'est plus d'un essai par match. Donc voilà, on a hâte de le voir dans notre ligne, dans notre ligne d'attaque. Pareil, c'est un mec qui est formé à Manly. Qui a joué qui a performé dans le championnat des équipes réserves de NRL, donc pareil, c'est un bon profil. On a Andrew Dixon qui, alors lui c'est notre monsieur promotion, on l'appelle parce que il a connu deux promotions en Super League, une fois avec Lee en 2016 et une fois avec Toronto en 2019. Donc
jamais 203.
Exactement, c'est ce qu'on espère. On croise les doigts. C'est pareil, c'est un super mec qui il fait pas beaucoup de bruit, mais il est sur le terrain, il s'impose physiquement et tout. Donc c'est une réelle plus-value pour l'équipe. Et on a rentré Mitch Garbutt, pareil, sacré CV. Il a gagné deux fois la Super League et une fois la Challenge Cup avec Leeds. Voilà, c'est rare on n'a pas le niveau, si on est titulaire à ce niveau-là, il n'y a pas de hasard, quoi. Et pour terminer, on a Ben Reynolds, pareil, un ancien de Leeds qui vient remplacer le départ de Stan Robin, pardon, en demi. Et voilà, qui est un très bon buteur également, et qui va nous apporter aussi ça, cette expérience.
Oui, c'est très très bon, cette équipe cette année de Toulouse Olympique. Hein.
Bah, encore une fois, c'est ce qu'on a voulu. Le staff cherche toujours à améliorer en fonction des départs. Ils cherchent toujours à améliorer l'effectif. Et donc, ceux qui arrivent sont... doivent être meilleurs que ceux qui partent. Donc on espère ça. Et surtout, une des priorités de Sylvain aussi, c'est qu'il soit aussi de bons gars sur le plan humain. C'est très important.
Alors, parce que là, bon, il va y avoir ce match, on s'attend à un très beau match demain au stade Gilbert Brutus. Qui sera d'ailleurs télévisé sur YouTube, hein, des Dragons catalans, et peut-être du Théo, peut-être, où est-ce qu'il est visible sur le...
Sur YouTube, ce sera que sur la chaîne des Dragons.
Des Dragons, vous le télévisez, vous le reprenez pas
Sur YouTube, c'est on ne peut D'accord. pas reprendre le signal.
Ok, non, mais
si ça avait été sur Facebook, on aurait pu, mais pas sur...
D'accord, bon, mais tout le monde pourra se présenter. Et il sera diffusé sur Radio Marseillette. Alors, après cette rencontre, vous allez avoir de nouveau une longue période sans match, jusqu'à ce fameux démarrage au mois d'avril de cette championship. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que comment ça va se passer, les premiers matchs, parce que bon, dans un premier temps, on a annoncé que vous deviez, jusqu'à mi-mai, à cause de la septaine, faire tous vos matchs à domicile en Angleterre. Puis là, j'ai vu une information comme quoi ça serait celui de Londres, vous pourriez le jouer à Ernest Vallon. Alors, bon, on a dit un peu de mal à s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça va se dérouler ce début de saison, même si les choses évoluent régulièrement, quoi.
C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à organiser et presque autant à expliquer. En fait, pas tous les clubs de championship sont professionnels. Donc actuellement il y a une mesure d'isolement en Angleterre qui, pour les personnes qui font l'aller-retour, pour qui voyagent d'un pays étranger, dans la France. Et en fait, la fédération a dit que les clubs qui ne s'appuyaient pas sur un effectif 100% professionnel n'avaient pas à se déplacer à Toulouse. Du moins dans les premières semaines de la compétition, en espérant que les choses évoluent positivement ensuite. Donc ce qui fait que Featherstone et Swinton qui n'ont pas des effectifs pro, complètement pro en tout cas, ne sont pas obligés de se déplacer, donc on avait ces matchs prévus les 1er et 8 mai. En revanche, le premier match à domicile qu'on a prévu, c'est le 17 mai, c'est contre Londres, et Londres étant la seule équipe avec le Théo à s'appuyer sur un effectif pro, ils vont venir à Toulouse, et voilà, après on espère avoir des dates pour rejouer ces matchs. Après, la fédération a été compréhensive et n'a pas inclus n'inclura pas les matchs qui ne pourront pas être joués à cause de ce genre de conditions, quoi. Qui ne pourront pas être joués, ne l'inclura pas finalement dans le classement, parce que comme l'année dernière les Dragons catalans en Super League, il faudra avoir joué minimum 70% des matchs, donc pour les Théo ça fait 15 sur 21 et finir dans le top 6 pour pouvoir jouer les playoffs, quoi. Donc,
et la dernière question pour ma part. Et vous, pour Toulouse, comment ça va se passer? Vous allez partir, comme faisaient les Dragons l'an dernier, dans la journée, aller-retour dans la journée?
Tout à fait, tout à fait. On fait ça, okay. On fait aller-retour sur la journée, oui, c'est ça.
Donc financièrement, ça représente des frais supplémentaires ou...
Tout à fait, étant donné que oui, jusque-là, on utilisait des vols commerciaux, et que là, on est obligé d'affréter des avions. Donc oui, en effet, c'est des frais supplémentaires qui viennent s'ajouter à l'absence de revenus, puisque on n'a pas joué pendant un an et que on va jouer à huis clos au moins le premier match à domicile. J'ose espérer qu'on pourra ouvrir les portes du stade Ernest Vallon après ça, puisque dans la foulée, notre match à domicile suivant serait FM.
Très bien, Roger, moi, pour ma part...
C'est vrai que ça va être très difficile pour le Toulouse Olympique. Je pense sur le plan organisation, sur le plan sportif, vu le matériel qu'il y a, je ne me fais pas trop de soucis. Mais bon, mais c'est cette incertitude qu'il y a sur ces matchs-là, Angleterre et tout ça peut être évident, je leur souhaite beaucoup de courage et si vous voulez aider le Toulouse Olympique, vous pouvez le faire. Hein. Vous allez sur le site de Toulouse Olympique, vous pouvez aider, même faire un petit don, vous pouvez aider le Toulouse Olympique. C'est bien ça, Thomas Sartorel.
C'est ça, tout à fait. On a lancé une opération de don qui a pour but de soutenir l'ensemble du club. que ce soit de l'école de rugby jusqu'à l'équipe élite. Voilà, c'est on est un club. Depuis un an, il n'y a que l'équipe élite qui a pu reprendre la compétition. Tout le reste du club est à l'arrêt. Donc oui, on a lancé une campagne de dons, une campagne de récolte de dons, et toutes les informations sur notre site www.to13.com.
Très bien, on va remercier Thomas Sartrain. On rappelle que ce match, vous pouvez le suivre sur YouTube et également sur Radio Marseillette. On espère qu'on aura réglé ces problèmes de diffusion sur Internet en direct. On espère tous. Et demain, on va se réveiller. Je sais que ça va être un match... moi, je dis que c'est un match amical, plus qu'amical, et qui avait un intérêt supérieur et très, très, très intéressant. Merci, Thomas Sartorel.
Et puis, je pense qu'on aura l'occasion de retrouver
nos amis
toulousains sur cette antenne avant le début du championnat.
Avec grand plaisir.
Courant avril, dans tous les cas. Merci.
Merci beaucoup.
Allez.
Merci. Au revoir.
Une pause publicitaire et après on va se retourner vers Laurent Frissinous, le nouvel entraîneur du 13 de France.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par
Bardot Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne. Pour la gestion, la location ou la vente de vos biens, Betty, Margali et Didier de l'agence Bardot Immobilier vous accueillent du lundi au samedi au cœur de la Bastide, 44 rue Jean Bringer à Carcassonne. Pour les joindre, 04 68 25 37 63. Bardot Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne.
L'épicerie fine chez Julien à Carcassonne vous attend le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h non-stop.
Très large gamme de vins du Languedoc.
Un grand choix de blanquettes.
Un espace fromage en partenariat avec la fromagerie toulousaine du meilleur ouvrier de France.
Et pour vos plateaux entre amis, pensez à la charcuterie et au jambon ibérique ainsi que noir de Bigorre et noir gascon.
Pour réaliser toutes vos idées cadeaux, Corinne et Julien vous réservent un accueil chaleureux.
Chez Julien, 100 chemin de Mâquins à Carcassonne.
04 68 26 34 32.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olive, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Allez, retour à 13 passion. Alors, je précise pour les personnes qui nous écoutent par Internet, pour le moment, c'est pas de notre faute, hein, mais vous, si vous avez un appareil à Amazon, Echo Dot ou Google, vous voyez ce petit tour-là, là, par contre, vous pouvez nous capter. Hein, bon, on espère que ça sera bientôt réparé. Le reste. Laurent Frissinous, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir à tous.
Laurent Frissinous, un personnage du rugby à 13, et bon, avec tout ce qu'il a vécu au Dragon Catalan, il était très, très connu. Et donc, Laurent Frissinous, Denis est le nouvel entraîneur du 13 de France. C'est bien ça, Denis, je ne me trompe pas.
Mais je crois, oui. je crois que tu ne te trompes pas, oui. C'est le nouveau sélectionneur entraîneur du 13 de France, Et comme tu le dis, oui, c'est vrai. C'est vrai quand même que Laurent Frécinos, on ne va pas le présenter parce qu'on aurait, on en aurait passé de demi-heure. Ben, grand joueur de Villeneuve, des Dragons, puis grand entraîneur de cette équipe des Dragons. Il a été en même temps d'abord adjoint, si je ne me trompe pas, puis entraîneur principal de cette équipe des Dragons catalans. Et là, donc, ben, d'ailleurs, ça me permet de vous poser cette première question. Vous retrouvez à la tête... Bon, vous étiez vous deviez prendre l'équipe d'Ottawa, l'entraînement de l'équipe d'Ottawa, hein, en Ligue 1, mais bon, avec le Covid, pour l'instant, l'équipe d'Ottawa est en sommeil. Donc vous retrouvez à la tête de l'équipe de France, nommée par la nouvelle équipe fédérale. Donc pour vous, c'est quand même... C'est une nouvelle pression qui vous arrive sur les épaules.
Oh oui, pour revenir sur le contexte d'Ottawa, c'est vrai que on aurait dû commencer le championnat comme tous les clubs de Ligue 1 à partir du mois d'avril, sauf que voilà, la pandémie étant passée par là, et le fait de ne pas pouvoir voyager entre l'Angleterre et le Canada, la RFL a pris la décision de repousser l'entrée du club canadien à 2022, ce qui est une sage décision vu les difficultés actuelles. Après, en termes de pression pour moi, pour l'équipe de France, je préfère parler de fierté d'être engagé dans ce poste-là. J'ai eu la chance d'être un joueur international moins de 17, moins de 19 et François, et chaque fois j'ai été très très fier et rempli d'énergie dès que j'ai eu le maillot bleu sur les épaules. Donc cette fois-ci, ce sera un peu nouveau pour moi, ce sera en tant que coach, mais c'est une grande fierté, et qui plus est avec un challenge très très excitant à la fin de l'année avec la Coupe du Monde.
C'est dans ce sens que je disais pression, parce que prendre l'équipe à 6 mois, alors même si vous partez pas de rien, parce que bon, je sais quand même que vous connaissez bien Aurélien Colony, et que Aurélien Colony a fait du bon travail, hein, je crois qu'il faut le reconnaître, avec les moyens du bord, il a essayé de faire tout son possible, mais bon, vous êtes à 6 mois de cette Coupe du Monde, espérons qu'elle se fera. C'est vrai qu'en 6 mois, est-ce que vous allez avoir le temps de mettre votre empreinte sur cette équipe?
Alors, comme vous dites, déjà j'espère qu'elle se jouera. Je pense que courant mars, on aura une certitude, au moins du plan qui sera annoncé, à savoir si elle se jouera, si elle se jouera pas, et si elle se jouera devant des spectateurs. Ensuite, c'est vrai que la différence entre un club et une sélection, c'est de ne pas avoir les joueurs au quotidien. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis en train de planifier des camps d'entraînement avec certaines dates entre aujourd'hui et le début de la Coupe du Monde, que je vais partager avec l'entraîneur des Dragons, avec Steve McNamara, avec Sylvain Moulès à Toulouse, avec les différents entraîneurs du championnat élite. Et puis de ces discussions vont sortir une planification, encore une fois. Ce sera c'est super compliqué. On ne va pas apprendre un joueur à faire des passes, à plaquer. On n'aura pas le temps. On va juste... essayer de mettre un plan de jeu en application face aux adversaires qu'on aura, puisqu'on a la Grèce, l'Angleterre et les Samoa. Donc en fonction des qualités et des défauts, ou des faiblesses de nos adversaires, on va faire ce qu'il faut offensivement et défensivement pour essayer de faire une belle performance et au final gagner. Et puis surtout, on va passer du temps à partager sur un moment donné et définir notre comportement sur et en dehors du terrain lorsqu'on est avec l'équipe de France et essayer d'établir une très bonne culture, ce qu'on appelle, les Anglais appellent la culture, la cohésion d'un groupe pour performer pendant 6 semaines à la Coupe du Monde.
Il y a un tour très difficile avec les Samoa et l'Angleterre.
Pardon, je n'ai pas entendu le début, excusez-moi.
Je disais qu'il y a une poule quand même difficile avec l'Angleterre et les Samoa, c'est pas évident.
Ah ouais, tous les puristes, oui, vous en êtes. Bien sûr, les Anglais, ils ont été vice-champions du monde à la dernière Coupe du Monde. Les Samoans, ben, ils jouent tous dans les meilleurs clubs de NRL. Voilà, ça va être compliqué. Il faut pas oublier la Grèce, je pense qu'ils vont nous sortir des chapeaux, une colonie ou une sélection australienne également. Voilà, ce sera aussi un match accroché à l'image du match du Liban à la dernière Coupe du Monde. Voilà, ça va être trois matchs difficiles. Ceci dit, après, je pense que dans le groupe France, il y a des joueurs qui connaissent le haut niveau au quotidien, que ce soit avec les Dragons ou avec Toulouse, des joueurs de qualité dans le championnat élite. Tout ça va être à moi, avec ces joueurs-là, afin que la mayonnaise prenne et qu'on tire 100 à 110% de chaque joueur pour essayer de battre ses oppositions.
Alors, oui. Laurent, même si on espère tous que le meilleur résultat possible pour cette Coupe du Monde 2021, il est évident que je sais que du côté du président Luc Lacoste, et je pense que la vision est beaucoup. Cette Coupe du Monde, c'est une étape pour aller beaucoup plus loin, je suppose, et que vous aussi, votre aventure, elle n'est pas pour juste cette Coupe du Monde, mais on va dire à plus long terme.
Oui, alors tout a été très très clair entre les élus de la fédération et moi-même. L'objectif, il est à court terme, il est à la Coupe du Monde. Et ensuite, on fera un point. Alors, on fera un point à l'issue de cette Coupe du Monde sur le fonctionnement tout simplement. Moi, bien sûr que j'aimerais continuer. Je pense que eux également aimeraient qu'on continue à partager et discuter ensemble et fonctionner ensemble. Pardon. Après. Voilà, vous savez que les entraîneurs sont soumis aux résultats et c'est normal, hein, lorsqu'on est entraîneur, on accepte la règle du jeu, donc les résultats, je dirais le fonctionnement feront que l'aventure se prolongera après la Coupe du Monde ou pas.
Et alors, il y a une nouveauté qui a été annoncée, c'est la nomination d'un directeur du rugby, et donc Robinson, l'entraîneur des australien qu'on connaît très bien en France, du côté de Toulouse et du côté des Dragons. Lui annonce que son projet est à plus long terme. Alors comment vous connaissez bien avec Trent Robinson, comment vous allez travailler ensemble, lui étant à l'autre bout du monde, comment vous allez vous répartir des tâches, quel va être son rôle, le vôtre, etc.
Alors, avant de discuter de son rôle et de la répartition des tâches, c'est une grande fierté, je pense, pour tous les trésistes français d'avoir un directeur de rugby comme Trent. Trent, à l'heure actuelle, et tous les puristes vous le diront, il fait partie des deux, trois meilleurs entraîneurs du monde. Il a prouvé ces dernières années en gagnant le championnat à maintes fois avec les Roosters. Et c'est quelqu'un qui, vous savez, quand l'aventure s'est finie pour moi avec les Dragons, il m'a de suite appelé, il m'a dit allez, viens passer du temps avec moi en Australie. J'y suis allé passer 6 semaines, voilà. Donc en tant qu'ami, on a pu partager, discuter de cette de tout ce qui fait un entraîneur et la difficulté d'être un entraîneur. Donc je me suis permis de l'appeler, savoir si le projet l'intéressait pour la Coupe du Monde et bien après. Et voilà, c'est quelqu'un qui a accepté parce qu'il a la France dans son cœur. Et d'ailleurs, je la remercie encore. Et son rôle et ce qu'il va faire, il va partager avec nous tous. Comme un directeur de rugby, vous savez, à Leeds, par exemple, c'est Kevin Sinfield, donc il a droit de regard surtout, ils partagent avec tout, que ce soit avec tout le monde, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec les préparateurs physiques, que ce soit sur un contenu à la musculation, que ce soit sur la diététique. Voilà, il va amener son expertise sur tout. Alors à la fin, bien sûr qu'il y a des missions très précises et très distinctes. Donc la mienne, c'est d'être sélectionneur. C'est moi qui vais sélectionner, c'est moi qui vais faire un plan de jeu, c'est moi qui vais driver l'équipe. Voilà, tout est carré et tout est clair. Et lui viendra un petit peu partager et amener son expertise dans tous les compartiments qui font la différence un petit peu à haut niveau.
Alors, oui. Est-ce que Laurent Précinos, vous avez ou vous allez proposer une base de jeu correspondant à ce que vous voulez faire, hein, aux entraîneurs d'équipe d'élite 1, ou du moins certaines bases, de manière à ce que les joueurs aient une base commune entre le club et l'équipe de France?
Je vais partager avec eux. Ce serait présomptueux de ma part de leur dire quoi faire. J'ai jamais été, vous savez, moi je suis pas Wayne Bennett ou qui que ce soit, mais j'ai quand même une certaine expérience et mon but est de partager avec chaque entraîneur sur nos différentes expériences, sur dans quel domaine moi je peux leur apporter, et puis à l'inverse dans quel domaine eux ils peuvent m'apporter. Mais c'est un partage, une discussion, c'est en aucun cas imposé. Après, ce qui est sûr, c'est lorsqu'on voit le match de samedi, il y a des choses comme par exemple le tenu, la base du rugby à 13, gagner un tenu en attaque et gagner un tenu en défense, tout le travail qui peut être fait autour de ça, et c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec eux pour améliorer le championnat français et pour améliorer les joueurs individuellement lorsqu'ils viennent en équipe de France. Mais après, les entraîneurs du championnat élite ont une problématique à gérer, qui est celle du semi-professionnalisme. Donc c'est les joueurs qui travaillent toute la journée, qui arrivent le soir, qui sont plus ou moins fatigués. Donc c'est comment trouver pour eux cette alchimie pour être performant le dimanche en fonction de l'opposition, tout ça. C'est l'idéal, ça serait que le championnat soit pro. Pour l'instant, on n'en est pas là. J'espère bientôt ce sera le cas. Mais moi, mon but, c'est de partager avec eux et de faire en sorte qu'on soit sur la même longueur d'onde pour faire évoluer et le championnat et les joueurs individuellement.
Là, vous avez évoqué le match de la semaine dernière. Bon, entre ce match de la semaine dernière, celui de demain, là, ces matchs de préparation, vous allez avoir une... vous avez pu voir évidemment tous les jeunes qui évoluent au Dragon catalan. Demain également, il y aura tous ces garçons, tous ces jeunes français qui jouent au Théo. Puis vous avez pu avoir la vingtaine ou un peu plus de garçons d'élite qui étaient avec le 13 du président. Donc ça vous fait une espèce de revue d'effectifs, et vous pouvez même élargir cette revue d'effectifs ou...
Oui, on va être à 40, 50 joueurs à un moment donné qui sont cochés sur ma liste. À l'arrivée, il faudra 24 joueurs uniquement pour la Coupe du Monde. Donc entre maintenant et mi-octobre pour la Coupe du Monde, il y aura les contre-performances, il y aura les blessures, il y aura tout un tas de choses qui feront que voilà, ça peut changer entre maintenant et la mi-octobre, mais c'est vrai que moi je vais m'attarder à leur performance, aux performances des joueurs au quotidien, que ce soit dans les matchs d'élite, que ce soit dans les matchs de championship ou de Super League, plus ceux qui sont en Angleterre, à l'image de Théophage ou Morgan Escarré, des Romain Navarrete ou Gladwin Springer. Donc tous ces joueurs-là seront évalués de week-end en week-end. encore une fois, ce que je vous disais, la différence entre un entraîneur et un sélectionneur, c'est que il faut qu'il s'appuie sur des joueurs qui ont des bases solides pour pouvoir construire une équipe. Donc le meilleur moyen pour moi, c'est de voir quels sont ces joueurs qui ont les bases solides, de manière à ce que moi je puisse justement les guider pour avoir un plan de jeu le meilleur possible.
Et ce match là, bon, évidemment, ce match de la semaine dernière a montré la différence qu'il peut y avoir entre une équipe de Super League et Dragon Catalan, même si qui était en état de préparation, et une sélection qui n'a eu que trois séances, je crois, de trois quarts d'heure de travail en commun. Bon, c'est qu'il y a une différence. Mais est-ce que, malgré ces différences, est-ce que vous avez pu tirer des enseignements, aussi en particulier du côté des réservistes des Dragons Catalans ou des jeunes des Dragons Catalans, et puis du côté de ceux qui évoluent en élite? Bon, vous avez parlé du travail du tenu. Est-ce qu'il y a aussi, il y a également le problème de la conservation du ballon, qui est un des problèmes aussi dans ce championnat de France élite qu'on rencontre régulièrement le dimanche, nous qui on voit beaucoup de fautes, etc., de pertes de balles, qui viennent malgré tout souvent couper le rythme de ces matchs qui sont très intéressants. Est-ce que vous avez pu déjà à vous faire, bon, vous connaissez bien parfaitement le rugby mieux que nous, ce rugby à 13 d'élite vous le connaissez, mais est-ce que là ça vous a permis de vous faire une opinion encore plus précise?
Oui, bien sûr. Après moi, je reviens sur ce que je vous ai dit. Pour moi, la grosse différence entre aujourd'hui le championnat français, qui est franchement monté d'un ou de deux crans par rapport aux saisons précédentes, et la Super League, en l'occurrence les Dragons Catalans ou peu importe, ou les matchs internationaux, c'est cette base du tenu. C'est comment gagner le tenu en attaque et comment le gagner en défense. On a vu la différence ce week-end lorsque les Dragons ont enchaîné 2-3 tenues. On a eu du mal, nous, avec cette sélection à pouvoir les ralentir. Donc c'est des petits détails que moi j'avais l'habitude de bosser au Dragon, mais c'est vraiment au quotidien, c'est des rappels tout le temps. C'est des choses qui deviennent une habitude. Et j'espère qu'à un moment donné, en élite, ce sera pareil. C'est des petits détails, ça devient une habitude et ça se fait automatiquement le week-end. Alors c'est vrai que, après, pour revenir sur ce que vous dites concernant la conservation du ballon, vous savez, à haut niveau, dès qu'on fait une erreur, et notamment dans son camp, généralement on le pécache, donc voilà, ça fait partie aussi des points importants qui vont me permettre de juger sur les bases solides d'un joueur. Pour moi, les erreurs, il y a deux façons de les voir. Il y a celui qui essaye de créer un décalage dans la défense et qui, par manque d'exécution ou par manque de vision, eh bien, fait la faute, ou il y a celui qui jette le ballon bêtement. Voilà, celui qui essaie de trouver une solution ou un décalage, je vais plus l'encourager à continuer à travailler dans l'exécution pour justement qu'il ne reproduise pas cette erreur lors des matchs. Mais celui qui jette le ballon parce que vous savez, quand on le jette par derrière parce qu'on peut faire un offload et puis peu importe ce qui arrive, celui-là, c'est sûr qu'à haut niveau, dans les matchs internationaux, ce sera compliqué de revoir les mêmes choses.
Juste pour revenir sur ce problème du tenu, je voulais vous dire que c'est vrai qu'on voit la différence par rapport entre les U23 de Saint-Estève catalan qui ont une... On le voit déjà quand ils jouent face aux autres équipes d'élite, qu'une grande partie de leur vitesse commence là, au niveau du tenu, où on voit qu'ils ont... Ils acquièrent régulièrement au contact de cette équipe des Dragons une technique pour gagner les tenues par rapport aux... Et donc qui leur permet de jouer plus vite par rapport aux autres équipes.
Et même en défense. en attaque, tout à fait, même en attaque et en défense. Alors vous savez, comme je vous ai dit, une fois par semaine, je vais aller dans chaque club d'élite. Et hier soir, j'ai commencé à partager avec Justin Murphy, Greg Bird et Mathias Pala, donc avec Saint-Estève 13 Catalan. Et eux me disaient que entre 45 minutes et une heure par semaine, c'est quelque chose qui travaillait, le petit détail, soit individuellement, soit par groupe. Mais voilà, donc on voit un petit peu la différence, parce que c'est vrai que quand on voit évoluer cette équipe de Saint-Estève Catalan, qui sur les derniers matchs a une moyenne d'âge d'à peu près 19 ans, on se demande comment ils se retrouvent aussi haut dans le championnat avec autant de jeunes joueurs, voire très jeunes joueurs. Ben, tout simplement parce que les bases, ben, ils les maîtrisent.
Alors, est-ce que vous êtes en train, je suppose, de constituer votre équipe? Vous allez avoir certainement des adjoints. Alors, on ne vous demandera pas de nom, même s'il y en a un qui circule. Mais bon, nous, on n'est pas comme mais dans tous les cas, vous êtes en train, je suppose, vous allez constituer une équipe avec vous, ou vous n'allez pas travailler tout seul?
Non, c'est pas possible. C'est pas possible de travailler tout seul. Non. L'idéal serait d'avoir pour la Coupe du Monde, d'avoir bien sûr un entraîneur adjoint en attaque et en défense, et un préparateur physique et un préparateur physique adjoint. Alors c'est vrai que souvent dans les staffs, les préparateurs physiques arrivent en second, mais là vous savez, les joueurs vont avoir une saison très très condensé, très très compliqué, avec très peu de, voire pas du tout de week-end de repos. Donc les deux préparateurs physiques qui seront à mes côtés auront une part prépondérante, justement pour soit remettre à niveau les joueurs qui ont eu, comme les joueurs élites, une coupure assez importante, ou justement essayer de comme les joueurs de Super League ou les joueurs de Toulouse qui auront fait, j'espère, les playoffs et tout ça avant la Coupe du Monde. Il va falloir les manager tous les petits bobos, et l'importance des deux préparateurs physiques va être prépondérante.
Alors j'ai lu que, je ne sais pas si l'information est vraie, que Luc Lacoste, le président de la fédération, avait tenté d'organiser un match contre l'Angleterre avant l'été, en juin je crois, mais que les Anglais pour l'instant ne souhaitaient pas le faire. Donc ça peut être handicapant pour vous de ne pas pouvoir d'arriver à la Coupe du Monde sans aucun match de préparation.
Ah, ça va, vu comme c'est parti, ça va être handicapant. Il faut savoir que les Anglais, je vais vous expliquer pourquoi à un moment donné, ils n'ont pas un intérêt de faire des matchs amicaux. Ils prévoient d'en faire un contre les exilés, donc les meilleurs joueurs de étrangers de Super League. C'était, a priori, ça va se faire le week-end du 26 juin. Et il faut savoir que ce week-end-là, la compétition de Super League va continuer. Donc il y a de gros problèmes entre les clubs et les sélections, et notamment la sélection d'Angleterre, parce que les joueurs se retrouvent au milieu. Donc certains vont faire des doublons en trois jours, vont faire deux matchs entre la sélection et peut-être leur club. Et ça, moi, je veux pas me retrouver au milieu. Je veux surtout pas que les joueurs se retrouvent au milieu entre l'équipe de France et les clubs. Je veux qu'ils aient deux clubs, leur club respectif et leur deuxième club qui est le club France. Donc à nous à bosser en toute intelligence pour qu'ils arrivent fin prêt au mois d'octobre. Et donc ça c'est le but, et surtout pas retrouver le joueur victime au milieu. Donc alors certes, oui, il y aura a priori pas de match amicaux. Sauf si dans les prochains jours ou les prochaines semaines, eh bien, la RFL décide de sortir une date du chapeau, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, on bossera, je dirais, en quantité et en qualité en fonction de leur semaine, de leur semaine en club. Donc ça c'est obligatoire. Avec notre groupe, il ne faut pas que notre groupe arrive cramé en fin de saison.
Une dernière question pour moi, Roger. Laurent, est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec certains garçons, on va dire, certains anciens leaders de cette équipe de France qui avaient décidé de prendre la retraite internationale pour éventuellement les convaincre de remettre ça pour cette Coupe du Monde, pour encadrer la nouvelle génération?
Pas encore. J'ai eu des discussions avec certains dont je tairai le nom. Oui. J'ai pas eu toutes les discussions que j'aurais aimé avoir encore. Je pense que pour moi la prochaine étape, c'est de vraiment caler ces dates de camp d'entraînement et de rassemblement sur toute la saison. Donc voilà, je rencontre lundi Steve McNamara pour discuter avec lui. Je vais à Toulouse rencontrer Sylvain Houlès mardi matin et à l'issue, voilà, on mettra ces dates en place et on tiendra un fil rouge entre le premier rassemblement et la Coupe du Monde, et à partir de là je pourrai avoir toutes les discussions que je voudrais avec chaque joueur.
Roger,
moi j'ai une dernière question qui ne concerne pas le cadre de l'entraînement du club de France. Il y a des amis qui m'ont demandé de poser la question. Qu'est devenu votre complice de la charnière de la grande époque de Villeneuve sur l'autre, Rinaldi? Qu'est-ce qu'il devient ce garçon?
Alors, Julien va très bien. Il vit, j'imagine que vous avez suivi, c'était il y a deux saisons, il était revenu à Villeneuve avec sa femme Lorraine, qui est australienne, et ses deux enfants. Et il est reparti, là, il vit près de Sydney. Il est coach personnel, voilà, donc c'est un entraîneur personnel qui plus est. Je sais qu'il travaillait à un moment donné dans la salle privée de Russell Crowe, l'acteur américain. Donc voilà, Julien va très bien, il a gardé, enfin il a plus ses cheveux longs de l'époque, et il commence à avoir des cheveux blancs comme moi, mais voilà, il a la forme et sa famille va très bien.
Très bien. Très bien.
Bon,
merci Laurent.
Merci Laurent. À très bientôt.
On vous retrouvera avec plaisir aussi dans les mois qui viennent.
Allez, comme vous voulez, c'est gentil. À bientôt.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Alors, d'ici, on se paxe, on pourra aller vivre en Australie comme ça.
Ah oui, c'est un peu tard pour nous, Roger. Mais on voit quand même que c'est la mode d'épouser. N'oublions pas que Michalak aussi a épousé une Australienne, et en même temps il a épousé le rugby à 13, puisqu'il se retrouve là-bas, on a pu le voir sur les antennes de Bean à la mi-temps, avec Trent Robinson en tant qu'encadrant de cette équipe des Roosters. Donc,
peut-être qu'il va lui conseiller. Ils vont lui conseiller de ne pas manger de gaufres, c'est dangereux pour notre sport.
Bon, mais après, ça montre aussi que Trent Robinson, ce que disait Laurent Frécino, c'est quelqu'un de très ouvert et qui c'est vrai, aime transmettre beaucoup de choses. Voilà,
Roger. Il me reste quelques minutes.
Quelques secondes.
Bon, on arrive la semaine prochaine, on reviendra sur l'actualité internationale. On va vous dire que demain, vous pouvez suivre...
Attends, mais et le master.
Mais je n'oublie pas, moi, le master.
Ah, bon, excuse-moi.
Non, d'abord, je dis le programme. Ah, bon, chef, comme ça. Non,
ma chef, attention, excuse-moi, non, chef. Bon, je ferai deux allers-retours vers Carcassonne à genoux.
Ouais. D'accord. Et moi, je te souviens que le bâton derrière, si tu te lèves, tu prends un coup sur le cuisquette. Ah. Voilà. D'abord, je vais donner les rendez-vous demain... Dragon Catalan Toulouse Olympique en intégralité, et puis dimanche Limoux Villeneuve sur l'autre en intégralité, et puis on espère qu'on aura réglé ces petits problèmes indépendants de notre volonté, et puis également Denis, tu vas te faire un plaisir de donner le classement du Master Bernard Roque qui est géré par la star départemental du rugby à 13, j'ai nommé Victor Jalbou.
Oui, juste au préalable, pour ajouter, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont rejoints pendant l'émission et qui se disent comment ils commentent Limoux à Villeneuve et pas à Carcassonne à Saint-Gaudens. Le match, je veux simplement rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que le match Carcassonne-Saint-Gaudens, qui avait été déplacé du stade Albert Domecq au stade Mazet, est à présent reporté, annulé, ne se jouera pas, puisque pour des raisons de Covid, des joueurs ayant contracté le Covid, ou la Covid, je ne sais plus comment il faut dire. Et bon, dans tous les cas, voilà, donc nous aurons... malgré tout, un grand match à vous faire vivre dimanche après-midi, Roger vous l'a dit.
Oui, très bon match.
Exactement, oui. On verra déjà à l'œuvre le nouvel entraîneur, puisqu'il y a un nouvel entraîneur à Villeneuve. C'est donc... Roger, tu m'aides, le nom m'échappe. Nouvel entraîneur, Villeneuve. Olivier Genzac, voilà, Olivier Genzac.
Voilà.
Bon, je peux pas compter sur
toi.
Tu me laisses... Tu me laisses sécher là. Ah, là.
Ben non, oui. Tu comprends, je sens que tu prends de l'âge, alors il faut faire marcher ton petit cerveau quand même. Bon, ouais,
c'est
tu viens de le retrouver, tu vois.
Voilà, Olivier Genzac, le nouvel entraîneur de Villeneuve, qui reviendra en terre limoxine. N'oublions pas qu'Olivier Genzac, qu'on a bien connu dans l'Aude, a été entraîneur de Lézignan et entraîneur du 13 Limoxin. Hein, donc, il y a quelques années de ça, donc il revient à Limoux pour son premier match à la tête de cette équipe de Villeneuve-sur-Lot. Alors, pour revenir
à... Denis, il ne faudra pas oublier, avant de dire le Marseille Benaroc, que ces deux clubs, s'ils ont des occasions, il va falloir qu'ils les mettent.
Exactement. Alors, dans tous les cas, le classement, après, c'est toujours le même que la semaine dernière, puisque la semaine dernière, il n'y a pas eu de match. Donc, on va le rappeler, parce que Victor, autrement, nous tapera dès qu'il nous verra. En tête, Carcassonne est en tête avec 18 points pour 10 matchs. Lézignan est second avec 16 points pour 11 matchs. Et Limoux est troisième avec 12 points pour 11 matchs. L'occasion, Roger, demain, pour les Limoxins, enfin dimanche, en cas de victoire, de revenir à deux petits points de Lézignan. Alors évidemment, avec des matchs en plus, mais quand même, ça pourrait se resserrer vers en tête. On n'est pas encore à la fin de la saison. Voilà.
C'est bien. Voilà.
Donc, on a rendez-vous demain à 15h pour ce match de préparation entre les Dragons catalans et le Toulouse Olympique, en espérant que vous pourrez nous écouter sur Internet, que tout sera réglé. C'est un problème à Paris de...
Oui. Voilà. D'accord. Sinon, si vous avez l'appareil de l'Amazon Echo d'autres ou style Google, là, ça passe, vous pouvez nous écouter. Voilà, on va dire merci à Nicole.
C'est comme si tu me parlais chinois quand tu parles comme ça.
Ben oui, non, mais tu as fait des efforts énormes pour parler impeccablement l'anglais. Bon, chinois, bon, on ne peut pas trop te demander, Denis.
C'est pour ça, je ne pige pas le chinois. Allez, ben Nicole, merci. On se retrouve demain à 15h, avec plaisir.
À
pour
demain,
faire vivre ce match qui va être un passionnant.
À demain 15h.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Ciao.